On va aller rejoindre Clément Mars, président du syndicat des travailleurs de l'ABI. Et pour l'introduire, on vous fait entendre encore une fois, parce que oui, M. Legault est revenu sur le dossier de l'ABI hier en échange avec Pierre Arcan.
Je n'ai jamais vu un premier ministre se mêler d'un conflit de travail privé. Depuis des mois, le premier ministre du Québec profite à chaque occasion qu'il a pour s'en prendre au syndiqué de l'aluminerie ABI à Bécancour. Le syndicat de l'usine a déposé une plainte à l'Organisation internationale du travail hier en raison de cette ingérence du premier ministre. Le premier ministre dit là-dessus, elle l'a dit au mois d'avril, « J'ai préféré donner mon opinion pour accélérer le dossier. Je pense actuellement le parti qui doit faire le plus de compromis, c'est le syndicat. » Il a ainsi coupé l'herbe sous le pied de son ministre du Travail qui travaillait sur un projet de règlement pour résoudre le conflit qui perdure depuis maintenant 17 mois. Pourquoi le premier ministre n'admet-il pas qu'il a commis une erreur politique en se mêlant du dossier?
Monsieur le premier ministre.
Oui, monsieur le président, je l'ai dit à plusieurs reprises, le conflit chez ABI a duré depuis beaucoup trop longtemps. Ça fait 16 mois maintenant qu'on a 1000 employés à un salaire de 90 000 $ par année qui refusent l'offre de l'employeur. Pourtant, c'est le même employeur qui s'est entendu avec ses employés à Bécomo. Donc, j'ai donné mon opinion. Moi, je pense que les employés devraient considérer très sérieusement l'offre qui est là. Ça ne nuit pas seulement aux employés, ça nuit à toute la région de la Mauricie. On parle de 1000 emplois, une centaine de millions de masse salariale, mais on parle de 500 millions de $ de retombées pour les sous-contractants, les fournisseurs, le commerce de détail de la région de la Mauricie. Donc, Monsieur le Président, c'est un conflit privé. En bout de ligne, ce sera aux employés à décider s'ils acceptent oui ou non l'offre patronale, mais j'ai dit ce que j'en pensais. Je souhaite, Monsieur le Président, que ce conflit soit réglé le plus rapidement possible.
On s'en va rejoindre Clément Mars à l'instant. Bonjour, Monsieur Mars.
Oui, bonjour.
Bonjour, Monsieur Mars. Quand vous entendez ça, puis c'est pas mal le même discours là, depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, est-ce que vous regrettez d'avoir demandé l'intervention du premier ministre en premier lieu?
Non, parce que nous, c'était une démarche normale là, qu'on demande au premier ministre d'intervenir, mais on ne lui demandait pas d'intervenir sur la négociation, sur les éléments qui se retrouvaient dans la négociation, les demandes de l'employeur ou de prendre parti. On lui demandait de rééquilibrer les forces en raison de la clause de cas de force majeure là, dans le contrat d'Hydro-Québec. C'est ce qu'on demandait au gouvernement. M. Legault est parti sur un autre chemin, puis s'est mis à s'attaquer aux syndicats, aux travailleurs. Encore ce que j'entends de lui, mais j'avais entendu hier là, lors de son discours.
Ouais.
Il s'attaque encore seulement qu'aux travailleurs. Il demande toujours aux travailleurs de reconsidérer l'offre. Il ne demande pas à l'employeur de reconsidérer ses demandes de concession. Ça fait qu'il prend encore position. Ça va rajouter à la preuve qu'on a concernant notre plainte à l'Organisation internationale du travail.
Monsieur Mars, à chaque fois, puis c'est pas la première fois que je l'entends, hier, M. Legault l'a dit, bon, il dit c'est le même employeur qui s'est entendu avec ses employés à Bécomo. La semaine dernière, on parlait avec le président du syndicat là-bas. Évidemment, c'est pas nécessairement le même contexte. Je sais qu'en 2013, on leur avait demandé de couper des emplois. Est-ce que c'est vrai qu'à Bécomo, on leur avait dit, là, vous réduisez le nombre d'employés, sinon on ferme? Est-ce que ça s'était rendu jusque-là, la menace?
Oh, les menaces, vous savez, la compagnie Alcoa en a déjà fait. Elle en avait déjà fait à tout le Québec en menaçant s'ils renouvelaient pas leur contrat d'énergie. Ils menaçaient de fermer les trois usines au Québec. Donc, des menaces, c'est possible qu'il y en ait fait, mais je suis pas au courant, là, à Bécomo si il avait été vraiment victime de menaces en échange de perte d'emploi, là. Mais,
okay.
On va les rencontrer bientôt, là, les syndiqués de la CSN à Bécomo.
Oui.
Puis on va échanger avec eux, là, sur le contrat qu'ils viennent de négocier. Donc, je vais avoir plus d'informations. Pour l'instant, j'ai pas beaucoup d'informations, là, sur l'entente qu'ils ont conclue avec leur employeur.
OK. J'ai une question qui provient d'un auditeur, M. Mars, puis je vous la pose, d'accord, qui dit ceci. Est-ce que vous pourriez faire voter vos membres sur la convention collective que Bécomo vient tout juste de signer et ensuite aller cogner à la porte d'Alcoa pour leur mettre de la pression dans le but de négocier un protocole de retour au travail? Parce qu'on sait que la dernière offre avait été refusée à 82 %. On me dit surtout à cause du protocole de retour au travail. Est-ce que ça pourrait se faire, ça?
Ben non, on peut pas faire voter des gens sur n'importe quoi. La convention est très différente, la convention au niveau de Bécamo, là, est très différente de la nôtre. Les métiers, c'est pas les mêmes métiers. C'est une usine qui est beaucoup plus vieille, donc qui a eu peut-être des particularités qui sont très différentes de chez nous. C'est que les secteurs souvent sont différents, les métiers sont différents, donc ce serait difficile là, de prendre une convention pour faire voter dessus. De toute façon, faire voter les gens sur quelque chose qui est une hypothèse, c'est un peu le même principe que l'hypothèse de M. Boulay. Mm-hmm. Faire voter sur quelque chose qui n'est pas une offre de l'employeur, c'est quoi l'objectif de ça? C'est quoi le but? C'est nous, ce qu'on veut, c'est négocier avec notre employeur qui vient de s'asseoir à la table. Faire voter mes membres sur n'importe quelle offre ou n'importe quelle hypothèse, n'importe quelle chose qui ne fera pas avancer dans le dossier. Là. Nous, ce qu'on veut, c'est que l'employeur vienne se rasseoir à la table et qu'il diminue ses demandes de concession. Puis on l'a dit, là, nous, ça fait longtemps qu'on le dit, puis on dirait que M. Legault n'arrive pas à comprendre ça, là, que c'est pas une grève, là, c'est un lock-out. C'est pas nous qui avons sorti, c'est l'employeur qui nous a mis dehors à la porte. Puis c'est l'employeur qui est en demande de concession. C'est pas le syndicat qui a des demandes à faire à l'employeur qui sont déraisonnables. C'est l'employeur qui est en demande de concession sur des choses qu'on a déjà dans nos conventions collectives. Donc, c'est des choses qu'on a acquis au fil des années, au fil des négociations. Puis là, on a une demande de notre employeur de faire des concessions là-dessus. Puis on a notre premier ministre qui trouve qu'on est déraisonnable. Moi, je pense, tu sais, quand le premier ministre dit que c'est des emplois de qualité, oui, c'est des emplois de qualité, mais on s'est battu pour ça. Puis les gens, mais moi, j'ai aucun nombre des salaires qu'on a chez nous parce que les jeunes méritent. Ils travaillent dans des contaminants, avec du métal en fusion, du métal liquide, avec des contaminants cancérigènes, avec des contraintes de chaleur, des contraintes de froid, de chaud l'été. Donc, j'ai aucune honte des salaires qu'on a. C'est des salaires comparables dans l'industrie. Je ne sais pas pourquoi le premier ministre continue à frapper sur ce clou-là puis qu'il ne fait aucune intervention auprès de l'employeur pour lui demander d'être raisonnable et de venir se rasseoir à la table. C'est pas normal qu'après 17 mois de conflit, que nous, on soit encore à se battre pour maintenir des emplois de qualité puis maintenir nos conditions actuelles. Tu sais, hier, je l'ai mentionné à Québec, M. Legault cherche à ce que le Québec s'enrichisse puis économiquement, mais l'enrichissement du Québec, il sert à quoi? Il sert à simplement enrichir les entreprises comme Uber ou Alcoa, ou il cherche à enrichir tous les travailleurs et travailleuses du Québec.
Ouais,
c'est
mais
un
Monsieur
peu
Mance,
la réflexion qu'on fait.
OK, je vous pose la question parce qu'hier, bon, j'ai vu, vous êtes à Québec, j'ai vu la sortie puis l'espèce de regroupement avec les représentants de l'industrie du taxi. Et je comprends le point commun, donc, puis vous venez de nous le dire, là, l'espèce de point commun contre les multinationales. Mais il n'y a pas un danger un peu à agir comme ça? Je vous explique pourquoi. C'est que, tu sais, c'est pas toutes les multinationales qui traitent mal leurs travailleurs. Et au fil des années, M. Mas, si on exclut ce qui se passe actuellement, je comprends que vous êtes en lock-out depuis plusieurs mois, c'est long, bon, vous avez des insatisfactions, mais est-ce qu'on peut dire qu'Alcoa et un peu Rio Tinto vous ont toujours vous ont toujours donné des conditions inacceptables? Tu sais, Alcoa est-il un si mauvais employeur depuis des années?
Non, c'est pas ça qu'on a dit. On n'a jamais dit qu'Alcoa ou Rio Tinto étaient des mauvais employeurs. Ils ont eu faute à certains égards. Dans certains pays, c'est différent d'ici, mais ils ont eu faute à certains égards. C'est pas nécessairement un mauvais employeur, mais c'est pas ça qu'on dit non plus. Nous, on dit que s'il y a une richesse qui est créée au Québec, elle ne devrait pas profiter simplement aux entreprises. C'est ce qu'on dit. C'est pas le Québec Inc., mais le Québec Inc., c'est pas en disant Québec Inc. que ça va enrichir seulement que les dirigeants des entreprises, puis que ça va enrichir les entreprises. Il faut que cette richesse-là se retrouve dans les travailleurs. Ce qui se passe avec l'industrie du taxi, là, c'est dramatique pour ces gens-là. C'est des gens qui ont investi, qui ont hypothéqué une maison pour acheter des permis, puis le gouvernement laisse entrer un nouveau joueur, Uber, sans permis, sans payer d'impôts, sans payer de taxes. Il laisse s'installer, il fait des projets de loi. Puis pendant ce temps-là, qu'est-ce qui arrive avec les chauffeurs de taxi? Ben, ils sont démunis, là, parce qu'ils peuvent pas lutter contre ça, puis ils peuvent pas lutter contre Uber qui arrive. Bon, mais le gouvernement, quel parti qu'il prend? Il prend la partie d'Uber. Puis là, il cherche à détruire un peu l'industrie du taxi. Il leur offre de racheter le permis, mais leur offre de racheter le permis au prix qu'ils l'ont payé il y a 30 ans. Si je vous offrais de racheter votre maison, moi, au prix que vous l'avez payé il y a 30 ans, ce ne sera pas, ce sera pas que très satisfaisant pour vous.
Non, puis M. Mas, on se comprend par contre que sur l'aspect du salaire, les chauffeurs de taxi ne font pas les salaires des travailleurs de l'ABI. Là. On est d'accord là-dessus.
Non, c'est ça. Est-ce que ça va enrichir le Québec qu'Uber vienne s'installer ici? Les chauffeurs d'Uber, je ne pense pas que ça va être des gens qui vont gagner 90 000 $ par année. Là. C'est pas,
non, je pense pas.
En installant Uber au Québec... qu'on va enrichir le Québec, je pense pas. Donc, c'est okay. Un peu ça qu'on dénonçait hier au Parlement.
OK, merci, M. Mas.
Ça m'a fait plaisir.
Merci, au revoir. Bonjour. Bonne journée, Clément Mas, président du syndicat des travailleurs de l'ABI.